la sphère neuro. Célia Morès sur Nutri Radio.
Bonjour Célia Morès.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès sur Nutri Radio. Je vais pas vous demander comment vous êtes habillé, on est en distanciel. Et c'est moi, j'aime bien visualiser. Vous savez, je suis quelqu'un de visuel, je visualise chacun des auditeurs, je visualise tout. Et je sais que vous êtes en noir.
Tout à fait,
parce
comme d'habitude.
Que, voilà, c'est votre couleur de prédilection. Il y en a qui disent oui, j'en parle souvent, mais j'en parle souvent parce que c'est l'élégance, c'est la classe. Alors, c'est Célia Morès, elle est là, consciencieuse, vous étiez partout. Et après, vous étiez au Salon de l'Agriculture cette année d'ailleurs.
Oui, tout à fait. J'ai fait une table ronde justement aussi au Salon de l'Agriculture pour, sur le stand Bleu Blanc-Cœur pour lequel je suis ambassadrice Bleu Blanc-Cœur. Et c'était sur les systèmes alimentaires. Et justement, en fait, l'impact, répondre à la question, quel est l'impact de ces systèmes alimentaires finalement sur les maladies du siècle, les maladies actuelles. Donc, probablement que je vous proposerai justement une émission Nutri Radio dessus parce qu'effectivement, il y a de forts liens entre l'environnement, entre l'agriculture et effectivement certains types de maladies que l'on retrouve actuellement. Beaucoup plus qu'on ne le pense, donc c'est assez intéressant, oui.
Alors, on va parler aujourd'hui avec vous d'un sujet tout aussi intéressant que connaissent bien de nombreux Français, figurez-vous, mais pas forcément les conséquences. On parle des benzodiazépines et des opiacés. Rappelez-nous, contexte, de quoi il s'agit, Célia.
Alors, là, on va parler effectivement des benzodiazépines et puis la semaine prochaine, je dédierai une émission spécifique aux opiacés parce qu'il y a des petites différences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les benzodiazépines, c'est quoi ? Ce sont des psychotropes. Et c'est quoi un psychotrope ? Ce sont des médicaments qui vont agir sur le système nerveux afin de modifier son activité parce qu'il dysfonctionne. Alors, que sont ces médicaments ? Alors, pourquoi est-ce que d'abord, j'ai décidé pour les psychotropes de me concentrer que sur les benzodiazépines ? Tout simplement parce que dans ces psychotropes, on va retrouver aussi des antidépresseurs et les anticonvulsifs qui sont donnés notamment aux personnes épileptiques. Donc là, j'ai voulu les mettre à part parce que c'est quand même des cas différents. Moi, j'ai voulu vraiment me concentrer sur les benzodiazépines pures, les hypnotiques et les myorelaxants, mais finalement, ces médicaments qui font partie de cette classe benzodiazépines. Alors, les benzodiazépines, hypnotiques et myorelaxants. Myorelaxants, c'est pour diminuer effectivement l'espace musculaire lorsqu'on a des douleurs musculaires. Généralement, comme par exemple le myolastan, ce sont des benzodiazépines. Les hypnotiques, c'est pour dormir. Notamment, on a du Stilnox qui fait partie pour le médicament qui sont référencés en pharmacie. Le Stilnox qui fait partie effectivement des médicaments benzodiazépines, c'est une molécule benzodiazépine. Et tous les benzodiazépines comme l'Exomil, etc., Xanax, etc., qui sont effectivement des médicaments qui vont être utilisés donc soit pour dormir, parce que la personne a des problèmes de sommeil, soit pour se relaxer, pour détendre et diminuer l'anxiété. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces médicaments vont peut-être être trop prescrits, mal prescrits dans certaines situations, ou en tous les cas, les personnes peuvent devenir relativement dépendants. Addiction, je n'aime pas forcément le terme, vous devrez parler plutôt de dépendance, effectivement, à ce type de médicament. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va se passer quoi ? Ils vont peut-être plus pouvoir s'en passer. Ils vont essayer de prolonger la prescription. Il faut savoir que la prescription de ce type de médicaments, généralement aujourd'hui, dernière information en tous les cas, les médecins font des ordonnances à peu près pour 3 mois et après il y a un renouvellement. C'est-à-dire qu'en fait ils donnent l'ordonnance pour 1 mois mais renouvelable tant de fois. Généralement ça n'excède pas 3 mois alors qu'avant c'était un peu plus prolongé, hein, il y avait des ordonnances qui pouvaient durer un peu plus longtemps et effectivement là où ça peut causer effectivement un problème de dépendance, c'est si la personne prend ses médicaments au long cours avec une période supérieure à 2 ans. Donc, comment ça va se traduire à l'addiction ? Ça va être des demandes de prescription totalement répétitives. Les personnes vont essayer de gruger les médecins, de se procurer le médicament un petit peu de quelque manière que ce soit sur Internet, en allant voir différents types de médecins, etc. Parce qu'ils vont avoir l'impression du moins d'en avoir besoin, ne peut plus s'en passer. Du coup, l'anxiété revient lorsqu'ils arrêtent, les problèmes de sommeil reviennent et effectivement ça va être aussi de s'auto-médiquer, mais surtout comme on va voir comme pour les autres addictions et dépendances un effet de tolérance, ça va être évidemment d'augmenter effectivement la médication, c'est-à-dire effectivement d'augmenter au fur et à mesure les doses parce qu'ils ne vont plus en ressentir les effets. effectivement, ça va occasionner des problèmes. On le verra en dernière partie d'émission sur les problèmes que cela occasionne. Mais effectivement, voilà, ça va être. Alors, il y a des effets secondaires, on ne se cache pas. Diminution de la vigilance, somnolence, des troubles mnésiques, et on va voir qu'il peut y avoir des troubles de la parole, etc. Mais à la limite, parfois, ces effets secondaires sont presque les effets recherchés. Diminution de la vigilance, etc. Quand quelqu'un est anxieux, qu'il est hyper vigilant, effectivement, ça va permettre de. De retrouver du souffle, de sédater un petit peu. La somnolence, bah, quand on prend un hypnotique ou même quand on prend des médicaments comme certains anxiolytiques, c'est un petit peu fait pour. Hein, quand on se fait opérer, à l'époque, je me souviens, on pouvait avoir une anesthésie, nous donner quelques temps avant un anxiolytique pour essayer de détendre la personne, qu'elle commence un petit peu à être sédatée, à être somnolente, etc., pour que l'anesthésie fasse plus d'effet. Et quant aux troubles de mémoire, dans certains cas, c'est recherché, notamment pour les personnes qui ont des... J'ai lu ça dans un article justement sur les liens entre vomissement et cancer. Il y a des personnes qui ont été soumises à des chimios et qui, du coup, lorsqu'elles font des rechutes, vont avoir ce qu'on appelle des vomissements anticipatoires. C'est-à-dire qu'elles ont tellement un mauvais souvenir de leur première chimio pour laquelle elles ont été malades que de manière anticipatoire, sans même avoir encore le traitement, elles vont effectivement avoir ces vomissements. Et effectivement, il y a la prise en charge médicamenteuse contre le vomissement lui-même, mais aussi il peut être préconisé de donner ces benzodiazépines pour justement essayer de diminuer cette vigilance, de diminuer cette mémorisation que les personnes avaient pour leur pas leur occasionner des troubles de mémoire, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais pour diminuer cet aspect mnésique face à ce qu'elles ont vécu pour qu'elles puissent mieux vivre effectivement la nouvelle thérapie. Donc effectivement, on va voir là en deuxième partie d'émission effectivement qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, pourquoi est-ce qu'on devient dépendant de ce type de médication, et nous verrons en troisième partie bien évidemment quelles sont les conséquences effectivement sur la santé et jusque cela peut aller, jusqu'où cela pardon peut aller.
Bien, très intéressant, mais c'est aussi un sujet qui préoccupe beaucoup parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Français qui en prennent. Et après, comment faire pour s'en sortir? Est-ce que vous allez peut-être nous donner des alternatives naturelles ou, enfin bon, tout ça évidemment c'est accompagné par les médecins, même si vous allez me dire je suis pas spécialisé là-dedans, mais remarque, ce que je peux faire, c'est prendre tous les éléments que vous allez me donner et faire une émission après avec un diététicien ou un médecin pour savoir voilà comment faire pour essayer de sortir de ce médicament, surtout lorsque on y est habitué 1 an, 2 ans. Il y en a qui, j'ai vu un témoignage de personnes qui en prennent depuis 5 ans, par exemple. Bon, voilà, c'est pas simple, hein, Célia.
Ah, c'est pas simple du tout. Effectivement, moi, j'ai donner quelques conseils, etc. Mais effectivement, peut-être qu'un diététicien, comme vous dites, etc., pourrait effectivement rebondir et dire, ben voilà ce qui peut se passer d'abord avec des méthodes naturelles. Si les méthodes naturelles ne fonctionnent pas parce que peut-être que la personne a une trop grosse anxiété et que là, il faut passer aux médicaments. Mais effectivement, s'il y a des méthodes, si chez les personnes, on peut commencer par des méthodes naturelles, essayer de se sevrer par des méthodes naturelles, ça peut effectivement être impactant avec justement l'aide d'un médecin, d'un nutritionniste, d'un diététicien, enfin d'une personne qui a ces connaissances-là, notamment avec ces méthodes naturelles. Donc après, ça peut être aussi.
Et accompagner toujours en lien, c'est-à-dire la vision intégrative de la santé, c'est-à-dire toujours en lien après avec le médecin ou le psychiatre pardon, de référence. Bon, une petite pause. Et on se retrouve dans un instant avec Célia Morès, c'est sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
La sphère neuro, le retour de Célia Morès sur Nutri Radio. On parle aujourd'hui des benzodiazépines. On parlera des opiacés la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les deux. Donc aujourd'hui, petit focus sur les benzodiazépines. Vous avez rappeler en première partie d'émission de quoi il s'agissait. Si vous venez d'arriver, le podcast sera dispo dans un tout petit instant, juste à la fin de la diffusion de l'émission sur le live. Donc, pas de soucis, prenez le train en marche. Quels sont les mécanismes neurologiques des benzodiazépines?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme pour tout type d'addiction, augmentation de la libération de dopamine au niveau du noyau accumbens, ce fameux endroit, l'aire tegmentale ventrale qui contient les corps cellulaires des neurones dopaminergiques et qui va libérer la dopamine dans le noyau accumbens. Donc là, c'est quoi? Système de récompense, motivation à refaire le comportement, parce que ça nous fait du bien, parce que là, ça calme les problèmes, ça calme les tensions, ça nous fait du bien, on est motivé à refaire ce comportement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les benzodiazépines vont finalement se fixer au niveau des neurones GABAergiques. Et en se fixant sur ces neurones GABAergiques, donc au niveau de ce système de récompense, il va se passer quoi? Ça va empêcher ces neurones GABAergiques, finalement, de diminuer l'activité de la dopamine. De fait, la dopamine donc, va continuer à décharger. Finalement, il ne va plus y avoir le frein. Elle va être qu'en mode accélérateur. Et forcément, c'est ce qui va créer cette addiction. C'est ce qui va créer cette tolérance, puisqu'au fur et à mesure que la dopamine va être libérée, comme le cerveau va s'adapter, il va gérer en diminuant le nombre de récepteurs pour prendre en charge cette dopamine, pour diminuer son effet parce qu'il est obligé de s'adapter, de gérer, c'est le phénomène de tolérance et c'est pour ça que les personnes vont devoir au fur et à mesure augmenter les doses pour pouvoir avoir le même effet. D'un autre côté, ce qui va se passer aussi, c'est qu'au niveau des benzodiazépines, notre benzodiazépine va se fixer au niveau aussi ça va être aussi dans d'autres régions du cerveau, des agonistes des récepteurs GABAergiques. C'est-à-dire qu'en fait, dans d'autres régions du cerveau, à part celles où il y a la dopamine, enfin, à part celles du système de récompense qui freine les neurones GABAergiques et qui produit effectivement une plus grosse libération de dopamine, d'où le fait qu'il va y avoir dépendance et ou addiction, ça dépend du terme que l'on veut utiliser. Effectivement, dans les autres régions, ces benzodiazépines vont potentialiser les effets du GABA. Or, le GABA, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur, c'est finalement, qui va être impliqué dans la diminution de l'activité cérébrale. Donc, ça va faire quoi? Ça va sédater, c'est cet effet de somnolence, diminuer, effectivement, on diminue l'anxiété, on diminue l'espace musculaire, on diminue, effectivement, on est plus relaxé, donc on s'endort plus rapidement, etc., etc. Donc, ça va se fixer sur des récepteurs au niveau des neurones GABAergique, mais il ne va pas se fixer sur le récepteur lui-même où se fixe le GABA, c'est-à-dire que sur ce récepteur-là, c'est une protéine, hein, sur ce récepteur-là, il va y avoir deux endroits, il va y avoir deux serrures, une pour le GABA et une pour le benzodiazépine. Mais quand le benzodiazépine se fixe dessus, il n'empêchera pas le GABA de se fixer. Bien au contraire, ça va potentialiser ses effets, donc ça va être encore plus actif. Donc finalement, le GABA, les neurones GABAergiques dans les autres endroits du cerveau vont être beaucoup plus actifs, d'où cet effet sédatif. Et d'où le fait aussi que lorsqu'une personne arrête, ben forcément, le GABA, ça va revenir à la normale, donc on va peut-être perdre cet effet, on va dire, peut-être effectivement anxiolytique que l'on retrouve en consommant ces benzodiazépines. Donc, deux effets, on prolonge l'effet dopaminergique qui va créer une addiction, une tolérance, et d'un autre côté, en augmentant les doses, ce qui peut être très dangereux, et on va le voir, et ensuite, on va avoir effectivement cette potentialisation de l'effet GABAergique, donc on va augmenter l'effet du GABA dans les autres régions, donc sédatif du GABA, ce qui procure cet effet anxiolytique, de calme, etc. Et on sait qu'effectivement, il peut y avoir, on le verra, des intoxications alimentaires, donc des intoxications benzodiazépines, mais effectivement, c'est ce qui peut créer aussi ces symptômes de sevrage que l'on va retrouver, puisqu'effectivement, ben, lorsqu'on va être en manque, les neurotransmetteurs revenant à la normale, il va y avoir, comme pour tout type de dépendance et d'addiction, un symptôme de sevrage parce que le cerveau va se réhabituer dans l'autre sens.
Très bien. Bon, moi, je vous écoute attentivement, bien évidemment, ma chère Célia, en me disant quand même, vous avez parlé des dangers, il serait temps de les mentionner.
On va les mentionner de suite.
Alors, qu'est-ce que c'est vraiment dangereux? Parce qu'on augmente les doses, mais déjà, à petite dose, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux tout de suite? Et à partir de quand ça devient très compliqué?
Alors, il faut savoir que, bon, il y a les effets secondaires, j'en ai parlé en première partie d'émission. Au niveau des dangers, il peut y avoir une intoxication. Alors, évidemment, plus on augmente les doses, plus elles sont importantes, plus il va y avoir une intoxication. On peut, bien évidemment, comme tout médicament, faire une intoxication, même à des doses normales. On le sait, même avec du simple paracétamol, on sait que cela peut provoquer. Mais plus on augmente les doses, plus, évidemment, regardez, dernièrement, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, qui avaient eu des jeunes qui s'étaient intoxiqués volontairement au paracétamol pour voir, ils en avaient pris beaucoup plus que la dose maximale, pour voir lequel finirait effectivement à l'hôpital pour justement être désintoxiqué et pour finalement que les médecins gèrent les conséquences négatives de cette trop grande prise de médicaments et combien de temps ils allaient peut-être rester en réanimation, etc. Donc, il faut savoir qu'intoxication, il peut y avoir, ça peut dépendre déjà des personnes, mais effectivement, alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être de l'amnésie. Il va y avoir évidemment le trouble de la vigilance, une espèce de sédation totale, des difficultés à parler, à émettre même des sons. Des personnes vont avoir de plus en plus de difficultés à émettre des sons, à parler, des problèmes respiratoires, une altération de l'état de conscience avec des comportements effectivement de méchanceté, d'agressivité qui peuvent surgir, parce que finalement le côté finalement du cortex qui permet effectivement, c'est le cortex qui nous permet de prendre des décisions, d'analyser les situations, comme effectivement la conscience va être altérée, ils vont avoir du mal parfois à distinguer le bien et le mal. Il va y avoir, je vais venir avec des exemples, il va y avoir aussi de l'hypotension, des problèmes de déglutition, il va y avoir effectivement de l'altération des performances psychomotrices, une perte du sens critique. Donc là, évidemment, ça peut occasionner des problèmes. Et d'ailleurs, il y a eu un bouquin que je m'étais procuré il y a quelques années, qui était d'un journaliste scientifique d'investigation qui s'appelle Guy Hunier, donc Hunier, H-U-G-N-E-T, qui avait écrit « Psychotrope, l'enquête ». Donc, je m'étais acheté ce bouquin en me disant « qu'est-ce qu'il va dire ?» puisque moi-même, durant mon doctorat, j'étais consommatrice, mais je n'ai pas fait de dépendance, fort heureusement, mais justement à des hypnotiques comme du Stilnox pour pouvoir dormir, etc., parce que je m'étais inversé mon cycle de sommeil. Et je me suis dit « ça m'intéresse » parce qu'il allait mettre en avant les dangers. Et là, effectivement, là où on voit en quoi c'est dangereux cette intoxication et le fait d'augmenter les doses, c'est que je commence à lire et je me rends compte qu'en fait, les personnes qui ont eu des problèmes et qui ont eu des comportements anormaux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes même qui sont allées, quand on lit les différentes histoires de ces personnes-là, les témoignages, qui sont allées jusqu'au meurtre, à faire des choses qui sont finalement pénalement, juridiquement, enfin totalement répréhensible. Et on se rend compte de quoi, Fabrice ? On se rend compte de quoi, finalement, ça a été que ces personnes-là, je vous donne juste un exemple, on sait que le Stilnox, un hypnotique, c'est maximum un comprimé. Ça arrive que lorsqu'on en devient un petit peu tolérant, qu'on en prend en long cours, qu'il y a des soirs où le comprimé ne fonctionne pas et que on ne ferme pas l'œil. Ces personnes-là, au lieu de se dire j'ai pris la dose maximale, je ne peux rien faire d'autre, tant pis, pour pouvoir dormir, elles sont allées en consommer 2, 3 ou 4 comprimés.
Ah oui.
Et évidemment, ça a eu ses percussions. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, un comprimé peut déjà causer des effets secondaires. On sait qu'on peut avoir des problèmes de parole, c'est-à-dire une élocution qui n'est pas tout à fait normale. On peut avoir des problèmes de vigilance, etc. Des problèmes aussi d'altération d'une conscience, avoir des comportements ou voir des choses un petit peu bizarres. J'ai une de mes amies, pour tout dire, qui en avait pris. Et elle a vu, en fait, elle avait une affiche avec une danseuse qui était à droite dans la pièce, sa chambre. Elle s'est retrouvée avec l'affiche à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, l'affiche, elle bougeait. Elle avait des difficulté à parler quand elle prenait, donc elle prenait juste avant de dormir, elle se mettait au lit, elle ne bougeait plus. Donc effectivement, déjà avec un comprimé, ça peut se passer, mais imaginez qu'on en prend plus et qu'on dépasse la dose, c'est une intoxication, et comme il y a une perte de conscience, une perte du sens critique, altération de la conscience, les personnes peuvent se retrouver à faire des choses qu'elles n'auraient pas faites en temps normal. Donc c'est en ça que ça pose vraiment problème, hypotension, problème de déglutition, trouble de la vigilance, sédation, les problèmes cognitifs, de l'attention, etc. Donc évidemment, si les personnes conduisent, bien évidemment, il peut y avoir des accidents de voiture qui peuvent avoir lieu parce qu'on n'a plus les mêmes sens, les temps de réaction, c'est-à-dire qu'on va effectivement être plus lent pour réagir. Donc c'est vraiment ce problème-là. Donc il faut vraiment se méfier et toujours réévaluer. Est-ce que j'en ai toujours besoin? Est-ce que j'en ai pas besoin? Est-ce que c'est peut-être qu'une béquille? Donc, faire attention de trouver d'autres alternatives parce que pour gérer le stress, par exemple, il y a la cohérence cardiaque qui peut aider à gérer le stress de matière naturelle sans prise. Et après, on peut peut-être prendre et voir avec un professionnel de santé, justement, pallier le problème de l'anxiété par des plantes. Alors, moi, j'en connais certains. Alors, je vais en citer certains comme ça, mais pour qu'on se rende compte, il y a tout ce qui est phytose, spasmine, etc., qui sont des plantes qui diminueraient l'anxiété. Il y a d'autres types de choses qui existent, mais c'est vraiment à voir avec des professionnels du domaine qui peuvent vérifier si est-ce que cela peut fonctionner chez la personne. Tout dépend du degré d'anxiété, du degré du problème du sommeil. Le sommeil, on sait aujourd'hui qu'on peut le soigner par des plantes ou la mélatonine. Il y a beaucoup de compléments alimentaires à base de cela. Après, ça dépend effectivement de là où se situe la personne. Et là, rien ne vaut qu'un avis médical. Toujours réévaluer et faire attention évidemment à ce qu'il n'y ait pas cette automédication et peut-être qu'il y ait une meilleure prise en charge, peut-être, allez dire, alors ça, c'est peut-être un petit peu utopique, mais d'éviter qu'une personne puisse aller voir plusieurs médecins et se procurer le médicament un petit peu n'importe où. Peut-être que justement qu'avec la carte vitale, on puisse savoir s'il y a eu prescription ou pas pour éviter un prolongement de la prescription et qu'il y ait des personnes qui grugent, ne serait-ce que pour la santé. Vraiment voir avec des professionnels de santé pour voir quelles sont les solutions naturelles à mettre au point, parce que ce rabot est-ce que des plantes, il y a certaines plantes chez certaines personnes qui ne peuvent pas être prises parce que ça peut avoir des contre-indications. Donc là aussi, c'est pas parce que c'est naturel que c'est magique, il faut vraiment, vraiment se référencer à un professionnel de santé. Et surtout privilégier, moi je dirais, d'abord les méthodes naturelles qui occasionneraient moins de dépendance que évidemment ces problèmes, ces méthodes chimiques qui peuvent ensuite effectivement créer des intoxications avec créer de réels problèmes dans la vie de tous les jours de quelqu'un.
Vous avez parfaitement raison. Et puis, dans une vision intégrative de la santé, s'il y a ces problèmes de sommeil, de plein de choses, en fait, ça peut peut-être être le médicament va régler les effets, les symptômes, mais pas forcément la cause. Donc, travailler aussi en même temps sur la cause. C'est pour ça que c'est important, vous l'avez dit, mais travailler avec vraiment un professionnel de santé pour qu'il puisse traiter le fond en attendant de jouer les pompiers, comme dirait Pierre Maldinet. Les médicaments, ça joue les pompiers, mais après, il faut quand même traiter le fond pour pouvoir s'en sortir de tous ces états d'angoisse, de stress, des trucs qui nous pourrissent la vie, l'hypervigilance, etc. Merci beaucoup, Célia.
Mais avec plaisir.
On va se retrouver la semaine prochaine. Et cette émission, je vous le dis, je vous le répète, elle est dispo maintenant en podcast sur nutriradio.fr dans la partie médias. Et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Célia.
Au revoir, Fabrice.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutriradio.